La question que j'ai est un peu au-delà de votre sujet, mais je veux avoir votre opinion parce que c'est un des sujets les plus chauds. Est-ce qu'on a un problème avec les procédures et avec l'architecture telle qu'elle a été construite, ou est-ce qu'il y a un problème avec cette commission et la précédente, les toutes dernières commissions qui étaient très néolibérales, très proches de l'ordre industriel? Donc, c'est une question d'homme ou une question d'institution? Moi, c'est une chose qui m'interpelle depuis un peu de temps. C'est sur mes sujets, moi je travaille sur la politique macro, sur le pacte de stabilité, j'ai le même souci. Vous voyez, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il faut complètement repenser l'architecture, enlever aux technocrates les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut avoir des meilleurs technocrates? Ou ces technocrates sont tout simplement les technocrates qui sont l'expression des peuples, parce que, comme disait justement Catherine, la Commission est nommée par les conseils, et les conseils, c'est des gouvernements qui sont tous élus par plus ou moins des opinions publiques, mais plus ou moins consciemment néolibérales. Alors moi, ça m'interpelle bien au-delà de votre exposé, mais du coup, je dois vous poser la question, parce qu'en deux jours, on a eu un cadre dressé sur comment marche la Commission qui est assez... Et moi, sur mon sujet, qui est la politique macro, j'ai les mêmes réserves. C'est une question pas facile.
Bah, en plus, moi j'ai travaillé avant sur les questions fiscales, et donc les paradis fiscaux, la lutte contre l'évasion fiscale, et à l'intérieur de l'Union Européenne, c'est aussi un casse-tête cette question-là. J'ai pu voir sur différents sujets aussi toutes les difficultés. Je ne sais pas très bien comment vous répondre. En général, moi je n'aime pas trop accabler la Commission publiquement, parce que il y a aussi ce jeu et la Commission le rappelle souvent, le fait qu'il y a des choses qu'elle cherche à faire et c'est les États qui bloquent, et je pense que ça c'est quand même c'est vrai, enfin, en tout cas sur la politique commerciale on peut le voir, et qu'il y a un certain nombre de propositions intéressantes qu'on peut être portées par la France par exemple pour dire qu'on devrait faire de l'open data sur les négociations commerciales, qu'on devrait en contraignant les volets environnement, travail, etc. de ces accords, et je pense que c'est plutôt les autres pays qui ont bloqué sur ce genre de choses que vraiment la Commission. Après c'est vrai que c'est
une... C'est pas les gouvernements qui ont rencontré 88% des fois les lobbies, hein, comme ça.
Non, mais ça c'est évident, et la Commission elle est particulièrement... difficile à toucher et à influencer sur ce genre de sujet, donc il lui faut vraiment une mobilisation énorme pour commencer à prendre en compte le début d'un sujet. Donc par exemple sur ces questions-là, il y a quand même eu l'organisation d'une initiative citoyenne européenne sur les négociations avec les États-Unis et le Canada, donc qui vise à collecter 1 million de signatures dans 8 pays membres, etc. Et sa première réaction, c'était de dire que c'était pas légal de faire une initiative citoyenne européenne sur un sujet de négociation commerciale. Et donc elle l'a invalidé. Le truc s'est fait de façon autogérée, du coup, et il y a eu plus de 3 millions de signatures. Et finalement, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a quelques semaines, a dit que c'était légal et qu'elle aurait dû le prendre en compte. Mais voilà, on est sur des choses où effectivement les procédures de consultation, de transparence, etc. sont beaucoup trop embryonnaires. Sur le mécanisme d'arbitrage, elle a organisé une consultation, il y a eu 150 000 réponses, ce qui n'arrive absolument jamais sur les consultations de l'Union européenne. Donc 97% des réponses qui disaient que le mécanisme était quelque chose de dangereux, qu'il ne fallait pas l'inclure dans les négociations avec les États-Unis, etc. Et finalement, ils ont accouché d'une réforme toute petite de ce mécanisme-là. Donc effectivement, c'est extrêmement difficile de la faire bouger. Après, sur les questions commerciales, la commission précédente était encore plus caricaturale, peut-être dans son expression, dans la façon de présenter les choses, etc. Là, il y a quelqu'un d'un tout petit peu plus ouvert. Mais c'est vrai qu'ils sont à des années-lumière des enjeux qui sont portés à la connaissance par un certain nombre de groupes dans la société. Et que, en plus, la réponse qu'ils donnent est particulièrement inadaptée. Et en fait, c'est ça le plus inquiétant. C'est que là, ils sont dans une période où ils se disent, avec Trump, avec tout ce qui se passe, il faut qu'on négocie à tout prix plein d'accords de commerce, qu'on montre qu'on est capable de les signer en plus et de les ratifier au niveau européen. Donc on passe en force et on essaie d'intensifier ce projet de libéralisation de nos relations commerciales, alors même que la politique est très décriée et que... y a un vrai risque de désintégration de l'Union européenne et que ce sujet commercial fait partie des sujets qui est beaucoup utilisé par, par les différents mouvements populistes partout en Europe pour dire que la Commission européenne et que les institutions européennes font n'importe quoi et ne protègent pas les citoyens, les populations, etc. Donc c'est très compliqué parce que quand on porte une critique sur cette politique-là, on se fait tout de suite disqualifier. Enfin, moi, voilà, on m'a dit que j'étais pro-Trump, enfin, ça prend des proportions absolument invraisemblables. Et du coup, c'est compliqué de les encourager à corriger le tir alors que c'est urgent et nécessaire.
Juste pour comprendre, pourquoi pro-Trump ? Enfin, je veux dire, j'ai bien compris que vous n'étiez pas pro-Trump, mais pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils pensent que si on négocie pas d'accord, c'est les États-Unis qui vont tout rappeler. C'est ça la logique ou c'est quoi ?
Bah déjà, il y a le côté on serait dans une course de vitesse, et donc si nous on signe pas d'accord, et ben c'est la Chine qui va en signer avec d'autres, et donc ça nous ferait perdre notre place de puissance économique et commerciale. Et ensuite, ils ont assimilé toutes les critiques qui pouvaient être portées à la politique commerciale actuelle à des critiques protectionnistes. Et des mesures, enfin, un protectionnisme bête et méchant, de dire il faut tout fermer, il faut empêcher. Et donc, au final, ce serait la ligne de Trump. Ce qui en plus est plus compliqué que ça, parce que finalement, on voit en plus que Trump, certes, il sort du traité transpacifique, mais qu'il est en train de dire qu'il faut renégocier certains accords. Donc il n'est pas contre les négociations commerciales, il veut simplement que les accords commerciaux soient encore davantage au bénéfice des États-Unis. Donc en plus, c'est un tableau qui est un petit peu plus compliqué que celui-là.
On va peut-être prendre une série de questions. Je peux vous demander.
Oui, alors moi je suis au niveau zéro sur ces sujets, donc je vais vous faire un peu d'indulgence si mes questions sont au niveau à côté de la je voulais savoir sur les aspects non tarifaires que vous avez évoqués. Je ne me rends pas bien compte la granulométrie, en fait, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau vont les accords sur ces contenus-là. Est-ce que, enfin, peut-être que c'est sur le développement durable, j'avais dit que c'était quand même très light, mais sur les autres sujets, est-ce que c'est juste on va travailler ensemble et des déclarations d'intention, ou est-ce que au contraire c'est très très précis, on va très loin sur le point, enfin voilà, quelle est vraiment la granulométrie là-dessus. Sur les questions de développement durable, j'avais quand même un sujet, c'était que moi je travaille dans un port et je me demandais si les questions de logistique liées au commerce et notamment aux échanges internationaux étaient un point à aborder aussi dans ce genre d'accord. Et ma dernière question, alors pas sur ce que vous avez présenté, mais sur votre casquette. Paradis fiscal, je me demandais si le Brexit, est-ce qu'il y avait un risque que à terme le Royaume-Uni devienne un paradis fiscal, en fait. Vous en voyez.
Voilà. Oui, moi je m'interrogeais en fait parce que les objectifs de la politique commerciale, donc globalement de faciliter énormément les échanges. Pour moi, tel que je le comprends, ça me paraît du tout contraire, enfin complètement antagoniste avec des respects de règles contraignantes relatives à un changement de modèle, notamment par rapport à la transition écologique. Et du coup, je m'interrogeais à la fois sur la dynamique qu'on avait pu observer après, je ne sais pas, 50 ans de traités internationaux sur le commerce. Est-ce que ça a induit des dynamiques d'homogénéisation de fonctions de produits vers le haut, vers le bas, enfin, est-ce qu'on a cette vision-là? Et puis après, d'un produit, je ne sais pas, voilà, comment ça peut être compatible avec la vision là-dessus.
D'autres questions?
Oui,
moi j'ai deux questions. Vous avez parlé tout à l'heure de clauses sociales. Je voulais savoir si vous aviez des exemples et si la Commission européenne avait pas un rôle de responsabilité important. je pense, à un texte qui a été, et que le gouvernement a essayé de faire passer au Parlement français sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de sous-traitants en Inde ou dans des pays en développement pour empêcher toute, toute atteinte aux droits de l'homme ou aux droits de l'environnement. Et du coup, c'est un texte qui n'est pas passé au Parlement français, mais il y a d'autres pays en Europe qui ont adopté des mesures un peu similaires. Donc est-ce qu'on est sur ces principes-là dans les clauses sociales? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'annonce de Macron sur le Buy European Act? Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est possible?
Ben merci pour ces questions-là, d'autant qu'il y en a certaines qui vont me permettre de pouvoir reprendre des points que j'avais envie de partager avec vous. Donc notamment sur la question climat et commerce, je trouve que c'est un bon exemple des difficultés qu'on a à intégrer aujourd'hui ces sujets-là dans les négociations commerciales. Et dans les deux sens, parce que d'ailleurs, quand il y a eu toutes les négociations sur l'accord de Paris, la COP21, la Commission européenne avait donné des instructions à ses négociateurs de ne pas intégrer des sujets commerciaux, pas au-delà de ce qui existe déjà comme mention, de dire que. Parce qu'il ne faut pas créer de nouvelles barrières commerciales au nom de la lutte contre le changement climatique, c'est quand même ça la logique. Donc on voit qu'il y a quand même une hiérarchie de facto entre les différents sujets. Et que par contre, dans les accords commerciaux, on pourrait...
Sur ce sujet-là, c'est une initiative de la Commission, ou c'est sur mandat des États? Ce changement de posture sur le fait de dire qu'on ne va pas au-delà parce qu'on ne tient pas compte du changement climatique, c'est une initiative des négociateurs de la Commission, ou ce sont les États qui créent ce changement de cap?
Sur ce sujet-là, on avait eu accès à un document qui montrait que c'était un document de la Commission vers les négociateurs qui leur demandait de ne pas intégrer les sujets commerciaux dans l'accord de Paris. Après,
sans
donner la décision...
Sans mandat du Conseil, ou on ne le sait pas.
Ça, je n'ai pas su, moi. Mais ça montrait quand même qu'il y avait un ordre de priorité. Après, quand on prend les choses à l'envers, c'est évidemment important de prendre ces questions de lutte contre le changement climatique quand on négocie un accord de commerce. Parce que déjà, le fait de vouloir augmenter le commerce, les échanges et donc la production, ça peut avoir un effet mécanique sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, les études d'impact sur le développement durable que la Commission fait quand elle le négocie, le disent de noir sur blanc. Mais à chaque fois, il y a un débat en disant « oui, mais alors comme le commerce permet aussi de diffuser des technologies, diffuser des technologies propres, donc peut-être que l'un dans l'autre... » les accords sont neutres ou en tout cas c'est pas si grave. En réalité, on voit quand même que la massification des échanges, ça produit un effet d'échelle qui pourrait être plus important que l'effet technologique qu'elle met en avant. Et de fait, on voit quand même aujourd'hui une division du travail internationale où toutes les parties de chaîne de production les plus émettrices de CO2, elles sont parties vers des pays qui sont les moins disants en matière de lutte contre le changement climatique, on pourrait appeler des paradis carbone pour le coup. Et que ça, c'est les chiffres de 2010, mais presque un quart des émissions de gaz à effet de serre des biens qu'on consomme dans les pays riches avaient été émises ailleurs, et à l'inverse, 22% des émissions chinoises étaient en fait relatives à des biens qui étaient destinés à la fabrication de biens qui étaient destinés à l'exportation. Donc on voit que là, il y a quand même un sujet, et qu'en fait, il y a une partie des efforts qu'on peut faire dans l'Union européenne qui peut être annulée. Par des hausses d'émissions ailleurs. Ça, c'est Global Carbon Project qui disait qu'il y avait 70% des émissions de réduction qui étaient dans ce cas-là. Et de fait, il y a plusieurs volets. Enfin, d'abord, il y a le volet énergie. C'est-à-dire que dans le CETA, il y a l'objectif de la Commission européenne, c'est de faciliter les investissements, la production et les échanges de ressources énergétiques, donc des sables bitumineux, etc. Là, on voit bien que ça va complètement de façon orthogonale par rapport à nos objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Et on pourrait imaginer que dans des accords de commerce, on cherche à augmenter le commerce sur tout ce qui est énergie renouvelable et à diminuer ça on le fait un peu, mais à diminuer vraiment le commerce sur le reste en mettant des barrières sur, sur ce qui est énergie fossile. Mais ce n'est pas, c'est pas le, la stratégie retenue. Et après, il y a aussi le volet transport. Et alors ça, c'est pareil. Dans la, l'accord de Paris, tout le volet transport international a été mis à part en disant c'est l'organisation de l'aviation civile internationale et l'organisation maritime internationale qui vont devoir produire des accords internationaux sur les normes d'émission des bateaux, des avions, etc. Sauf qu'on voit que pour l'instant, ce qui est sur la table est loin d'être satisfaisant. Alors que le transport, là aussi, c'est un poste qui augmente de plus en plus. C'est que 3% aujourd'hui des émissions mondiales, mais ça pourrait augmenter, les chiffres disent, de 290%, dont la moitié par du fait du transport maritime et aérien. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre dans les accords de commerce en disant, bon ben voilà, tous les échanges qu'on va avoir entre le Canada et l'Union européenne, il faut qu'ils se fassent dans des bateaux qui répondent à tel type de normes, etc. Donc il y a des choses sur le tonnage des bateaux, la qualité du carburant qu'on utilise, enfin il y a plein de choses qu'on a pu déjà identifier comme mesures. Mais alors ça, c'est complètement absent. Et pour le coup, on a souvent de poser cette question-là à différents interlocuteurs et il y a beaucoup qui nous ont dit on n'y avait jamais pensé, c'est pas encore vraiment pris en compte. Enfin, mais là, c'est un des trous dans la raquette, par exemple, qu'il peut y avoir sur cette politique-là. Après, est-ce que le fait d'échanger et d'avoir quand même certains engagements dans les accords de commerce, ça a participé à la hausse des règles en général au niveau international? Moi, j'ai jamais vu d'études là-dessus. Je ne sais pas si c'est parce qu'on échange avec des pays qui ont des meilleures normes que nous ou parce qu'on a une demande des consommateurs nationaux qui augmente ou sur les conditions de travail des salariés. Enfin, c'est difficile d'isoler les vecteurs de l'amélioration des normes. Mais les volets des accords de commerce sur le développement durable et le travail, franchement, c'est des volets assez indigents. Quoi. C'est écrit les partenaires s'engagent, alors quand c'est pas fait, à ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et à les mettre en œuvre, s'engagent à respecter leurs engagements pris de l'accord de Paris. Sur la partie RSE, il n'y a presque rien. Même les grands textes comme les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, ils ne sont pas cités dans les accords. Donc là, ça y est, la Commission le met dans sa politique, sa stratégie commerciale, mais on ne les retrouve pas dans les accords qui viennent d'être finalisés. Et évidemment, un sujet comme le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs sous-traitants et fournisseurs, c'est un sujet qui mériterait d'être traité dans ce type d'accord pour qu'on diffuse ce type de règles par ce canal-là. Alors, la loi a été adoptée en France, in extremis quelques semaines avant la fin du mandat. C'est la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères, donc c'est un texte qui a été porté... par beaucoup d'organisations de la société civile, j'ai aussi moi travaillé sur ce texte-là, et qui impose aux très grandes sociétés françaises de plus de 5000 salariés en France, ou 10 000 dans le monde, donc seulement quelques-unes, d'avoir des plans pour prévenir les violations des droits humains dans l'ensemble de leur chaîne de valeur, et éventuellement qu'on puisse à terme les tenir responsables quand il y a un dommage qui survient, si on arrive à montrer qu'elles n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour mettre en place des mesures de vigilance. Et ça a été pris effectivement après le drame du Rana Plaza, et c'est dans cet esprit-là que ça a été construit. Donc évidemment, c'est le genre de choses qu'il faudrait intégrer, mais sur ce sujet-là, pour l'instant, on n'arrive pas à le vendre à l'Union européenne. Pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a essayé d'innover, parce qu'il y a eu un carton vert. Donc ça, c'est un truc que les parlements nationaux essayent de développer dans l'Union européenne pour mettre des sujets à l'agenda de la Commission européenne. Normalement, ils ont un carton rouge pour pouvoir dire que certaines décisions européennes ne sont pas compatibles, je crois, avec... je ne sais plus exactement comment c'est, mais en tout cas, pour contester certaines décisions européennes. Là, ils se sont dit, on voudrait le faire à l'envers, Donc, pouvoir dire que si on est un certain nombre de parlements nationaux à vouloir porter une initiative et qu'on signe un texte, une résolution en commun, on demande à la Commission européenne de le prendre en compte et d'essayer de faire une proposition sur le sujet. Et il y a un certain nombre de parlements, plus d'une dizaine, qui ont signé une proposition de résolution qui a été présentée par les Français pour que l'Union européenne légifère sur la question du devoir de vigilance. Et pour l'instant, c'est resté complètement lettre morte et ça les intéresse. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Après, sur le Pan-European Act, alors ça, c'est un sujet... en fait, il faut savoir que sur tout le volet marché public, l'Union européenne, elle est très ouverte. Elle a souscrit des engagements à l'OMC, et déjà, parce qu'on est un marché unique, on a des marchés publics qui sont ouverts des opérateurs étrangers sur une base d'égalité avec nos opérateurs nationaux. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on est un peu les plus ouverts à l'échelle internationale et qu'il y a beaucoup de pays qui ont des stratégies complètement différentes, et notamment au Canada ou aux États-Unis, il y a des règles pour essayer de favoriser les PME, pour essayer de favoriser des acteurs locaux, et c'est des règles qui sont d'ailleurs souvent très appréciées de la part des entreprises, des ONG d'environnement, des syndicats aussi, enfin on comprend bien l'intérêt. Mais du coup, l'Union européenne est c'est donné pour mission d'essayer de convaincre et de convertir les autres pays du monde à fait d'avoir des marchés ouverts aussi, enfin, des marchés publics aussi ouverts que les siens. Donc elle est très contente parce que dans l'accord avec le CETA, il y a un certain nombre d'engagements qui portent sur les marchés publics fédéraux et des provinces. On a beaucoup de champions européens sur les activités qui peuvent être soumises à des marchés publics. Donc c'est un point positif mis en avant par la Commission européenne. Dans les négociations avec les États-Unis, c'est clairement quelque chose qui bloque, parce que les États-Unis ne voulaient pas revenir sur leur Buy American Act. Il y a ce débat qui est un vieux débat dans l'Union européenne, savoir est-ce qu'en fait on pourrait pas nous s'inspirer de ce que font les autres, si ça marche bien, s'ils sont si attachés, de se dire qu'on réserve les marchés publics et l'argent, on utilise l'argent des contribuables européens pour essayer de favoriser des activités locales, de proximité, circuit court, dans certains domaines. En réalité, c'est compliqué du fait des règles européennes et du fait des engagements qu'on a déjà souscrits à l'OMC. On joue déjà pas mal avec les règles et a priori, il faudrait changer les règles européennes, je pense, pour faire un vrai European Act en France et en Europe. Quoi. Mais en même temps, c'est à ce moment-là que, parce que quand on a revu la directive européenne sur les marchés publics, il y a beaucoup de collectivités locales qui disaient « Donnez-nous des marges de manœuvre pour qu'on puisse davantage soutenir des acteurs locaux en passant dans le marché public. » Et la Commission répondait « Oui, mais en fait, on est déjà engagé dans des accords de commerce où on a dit qu'on restait ouvert et qu'on était complètement ouvert, donc on ne peut pas le faire. » Au bout d'un moment, et si on souscrit de nouveaux engagements avec le Canada et les États-Unis, ça deviendra encore plus compliqué d'assouplir ces règles-là ou de les réformer.
Vous parlez de l'OMC, mais les États-Unis et le... Et ça ne les empêche pas, à l'appartenance à l'OMC, d'appliquer ce type de règles. Donc c'est, quand vous dites des règles européennes, c'est plutôt des règles européennes, des règles internes qui nous empêcheraient de mettre en œuvre.
Ben, les règles internes sont appliquées, oui, de façon plus stricte. Après, il y a un accord à l'OMC, mais qui ne concerne pas tout le monde, qui concerne 21 pays, je crois, de mémoire. Et qui est appliqué de façon très inégale aux États-Unis. Apparemment, il y a beaucoup de différences entre les États membres. Certains qui suivent un petit peu, d'autres pas du tout. Donc, c'est un des dossiers sur lequel l'Union européenne essaie de dire qu'on a signé quelque chose ensemble et il faudrait l'appliquer.
S'il y avait une volonté politique, on pourrait se retirer d'une norme spécifique de l'OMC. On pourrait dire que non seulement on arrête la suite, cet engagement, on le réunit. S'il y avait la volonté politique.
C'est une vraie question de savoir comment on défait les engagements, parce que souvent ils ont été écrits de façon à ce que ce soit difficile de les défaire. Et c'est un des points aussi que les cours constitutionnels regardent en ce moment là, dans les négociations avec le Canada. parce que ça peut être coûteux de sortir en termes de litige après avec les autres pays, voire avec les autres entreprises. Mais en même temps, c'est une piste qui est poussée par pas mal de gens aujourd'hui. Je voulais vous citer par exemple Gaël Giraud qui est économiste à l'AFD et qui lui dit qu'il faudrait maintenant quand même que sur certains sujets on puisse utiliser des mesures de protection douanière pour compenser les différences majeures sociales, fiscales et environnementales avec différents pays. Il n'y a pas longtemps, j'ai aussi lu un autre article dans la revue Politique étrangère qui a été préparé par un groupe d'experts qui est très actif dans le domaine des négociations commerciales. Et eux aussi, ils disaient aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de libéralisation, on a plutôt besoin de plus de transparence et de discipline par rapport aux règles existantes, et qu'il y a quand même des formes plus interventionnistes ou plus coopératives qui pourraient être promues pour relocaliser certaines activités ou pour accompagner des mutations économiques sectorielles qui, du coup, nécessiteraient de sortir de certaines règles commerciales et qu'on pourrait imaginer. Eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est envisageable. Par contre, leur point d'attention, c'est qu'il faudrait le faire de façon multilatérale, si possible, qu'on échange de façon multilatérale les restrictions sur les échanges, justement, pour qu'on ne rentre pas dans une guerre commerciale où chacun prend des mesures et des contre-mesures, de rétorsion, où là, il peut y avoir une spirale qui fait un peu peur à tout le monde, à tous les gens qui ont bâti ce système de règles commerciales internationales. Mais en soi, rien n'empêche de changer la philosophie de ce type d'accord et de reprendre des marges de manœuvre pour les États, pour les collectivités, pour pouvoir piloter un peu plus leur économie et notamment dans le sens de la transition.
Il y a resté une question sur les paradis fiscaux.
Ah oui, sur le Brexit. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Brexit, c'est presque une négociation commerciale à l'envers. C'est-à-dire qu'on était déjà dans un système très intégré avec beaucoup de règles communes et que là, ils veulent à la fois conserver les relations commerciales si possible les plus intégrées possibles et en même temps pouvoir sortir de l'acquis communautaire sur un certain nombre de choses. Donc c'est quand même c'est intéressant de voir comment les 27 vont gérer ça. Après c'est vrai qu'ils ont clairement mis ça dans la balance, de dire si vous n'accédez pas à nos demandes, on va redoubler d'agressivité du point de vue fiscal. En réalité, les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs satellites, les îles Anglo-Normandes, etc., sont quand même déjà des paradis fiscaux sur un certain nombre d'aspects. Ils ont déjà aussi participé encore récemment à la concurrence fiscale, puisque je crois que c'était au G8 qu'ils avaient hébergé chez eux et ils avaient essayé de promouvoir des mesures de transparence, etc. Mais en même temps, en disant on va baisser notre impôt sur les sociétés pour être les plus compétitifs du G20 de ce point de vue-là. Donc on voit qu'ils avaient de toute façon déjà une politique d'attraction des investisseurs internationaux assez agressive de ce point de vue-là. Et ça risque d'être difficile à gérer avec eux. C'est là où il faut, à mon avis, être très très ferme. Ils ne peuvent pas tout avoir. Quoi. Donc, ce serait un très mauvais signal de montrer aux autres pays qui peuvent être tentés par ce type d'aventure qu'on peut sortir toutes les règles qu'on a mises en commun et en conservant tous les avantages commerciaux.
Et juste une dernière question pour finalement vous permettre de conclure en clarifiant votre position. Au fond, par rapport à cet accord de nouvelle génération, votre sentiment, est-ce que c'est que finalement ils sont intrinsèquement tellement attentatoires au pouvoir de régulation, que ce soit des États ou des organisations supranationales, enfin, interétatiques, ils entravent le pouvoir de régulation politique. Et donc, globalement, c'est une voie dans laquelle il faudrait éviter d'aller, enfin, il faudrait rétro-pédaler parce que finalement, on se lie trop les mains. Est-ce que votre position, c'est plutôt de dire on peut avancer sur l'accord, mais d'une certaine manière, allons encore plus loin et donc enrichissons-les
avec des dimensions environnementales, commerciales et d'une certaine manière poussant les plus loin. Alors, on a essayé nous, d'approcher ces sujets-là en disant qu'il ne faut pas avoir d'avis préconçu sur ces négociations et s'il y a des aspects qui sont nécessaires, est-ce que c'est possible d'isoler les aspects qui nous semblent nocifs En réalité, plus je travaille moi, sur ces accords-là, plus j'en arrive à la conclusion que ce n'est pas ce type d'accord dont on a besoin. C'est-à-dire que si on enlève le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, si on revient à un mode de libéralisation des services par liste positive, si on enlève la coopération réglementaire, ou en tout cas on l'encastre beaucoup mieux dans nos systèmes démocratiques et de contrôle parlementaire, etc., et qu'après on fait un traitement spécifique pour l'énergie, l'agriculture, la finance, la culture, enfin un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs qui nous semblent qui devraient avoir un traitement à part, en réalité il ne reste plus grand chose de substantiel. Donc oui, il y a quelques baisses de tarifs sur certains pics tarifaires, il y a certaines mesures techniques d'accord qu'il faut garder, mais on n'a peut-être pas besoin de méga accords de commerce pour faire ça. D'autant que quand on regarde tous les risques par rapport aux gains économiques escomptés, la balance est quand même un petit peu déséquilibrée. Et du coup, là, plus on travaille sur de quel type de règles de commerce on en a besoin, plus on se dit finalement c'est des accords de régulation de commerce dont on a besoin. C'est-à-dire que le commerce doit être facilité parce que c'est important d'échanger, de rester dans des économies ouvertes. Mais on a trop eu tendance à développer la politique commerciale de façon complètement autonome du reste. Et il faut soumettre le commerce à des règles sociales, à des règles environnementales, à des règles fiscales, qui mettent du coup tous les acteurs économiques sur des règles du jeu équitables en plus. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Après, peut-être que des négociations commerciales bilatérales peuvent permettre de faire ça, justement. Et c'est ce qu'on a beaucoup dit au gouvernement français, c'est que... Parce qu'ils nous ont souvent dit, bah oui, mais le CETA, il est un tout petit peu mieux que les accords d'avant sur un certain nombre de choses, donc c'est important de le ratifier parce que ça nous permettra ensuite d'aller voir d'autres partenaires et de leur demander de prendre au moins ce qu'il y a dans le CETA. Sauf qu'en réalité, les avancées, pour nous, ne justifient pas le fait qu'on achète l'ensemble et qu'avec le Canada, et qui est effectivement un partenaire avec qui on pourrait essayer de se mettre d'accord sur des choses beaucoup plus ambitieuses, on devrait... négocier un accord, je ne sais pas si de nouvelle génération, poste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais qui remette les règles commerciales au service de l'objectif plus large.
C'est très clair.